Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdouin et nous sommes à Recoubeau-Jansac à la chocolaterie Hieré en compagnie de Alice Verstraeten. Bonjour.
Bonjour.
Alice, nous sommes donc dans ce lieu frais au bord de la route entre Luc et Di. Et pour cela, il y a un lieu d'exposition, une grande salle avec des œuvres exposées au mur ou aussi sur des tables et également des propositions d'assortiment au chocolat de la fabrication Hieré.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un projet qui est né avec Thomas Siron à Monahashi, qui sont chocolatiers, qui ont fondé la chocolaterie Hieré. Eux, comme moi, en fait, on a une formation d'anthropologue. Moi, j'ai fait le choix de me tourner non seulement vers la recherche, mais aussi vers l'édition. Eux, ils ont continué la recherche et ils ont décidé, pour des raisons éthiques et politiques, de se mettre à faire du chocolat équitable. Et on s'est rendu compte qu'on avait quand même des démarches communes dans l'idée d'avoir des initiatives très modestes, très petites, très artisanales face à des grands groupes. Alors pour eux, par exemple, Nestlé, pour moi, Bolloré. Et donc, on a décidé de faire quelque chose ensemble, le contexte politique aidant à se dire là, il faut s'y mettre, même si on aurait pu peaufiner encore plus pendant des mois et des mois. On s'y met, on convie les amis éditeurs et les amis artistes locaux autour de l'idée du dialogue entre la Drôme et le reste du monde. Quoi. Chercher ce qu'il y a de commun entre nous, Drômois, et le reste du monde.
Vous cherchez encore ?
Bon, on ne cherche pas, on trouve partout. Le commun, il est partout dans l'humanité, de toute façon. Voilà. Donc on a les éditions Colophon, qui sont basées à Grignan, l'atelier du Hanneton, qui est à Charpay, The Uchikuchi, qui est à Lucandiwa maintenant, et nous, les Colamboles à Di. Et puis comme artiste, on a Michel Lepère, qui est artiste peintre et graveur, qui est à Vinsobres, à côté de Nyons, et Denis Moplot, qui est dans le Diwa, qui nous a fait des photos du Diwa, pour que le Diwa soit là aussi. Mais voilà, on a tissé un dialogue qu'on a axé beaucoup au niveau des œuvres autour de l'Afrique centrale et de l'Ouest, puisque Amona est franco-ivoirienne et que le chocolat vient de Côte d'Ivoire. Donc on a travaillé là-dessus. Par exemple, hier soir, on a projeté Radio Congo, qui est un film tourné au Congo, en République démocratique du Congo, par Philippe Heim. Voilà, on essaye de garder une cohérence, même si tout ça est assez improvisé, en fait, pour tout dire. J'espère qu'on pourra le répéter, l'améliorer, voilà, pour travailler ce dialogue entre l'art, l'artisanat et la pensée.
Bena dakso kuzamate ilumwe ya betu ikile na kati ya isi na betu Republic Democratic du Congo bete na kuila misa maleme maleme ina betu kebinga bampono non ya dakso kusalama na le 23 décembre 2018 na toala na yo bima mingi menu kusa kusalama na kati ya isi na betu mingi na kati ya biro ya seni ilumwe ya betu ikile ina betu kebinga pre-electoral.
Je reviens un peu sur Radio Congo, ce film présenté hier soir. Je me suis baladé sur le site Facebook de cette radio, NSMO. Ça a l'air très dur comme contexte. Quand on regarde les photos de leur page, il y a un côté très martial, très, très officiel et même beaucoup de drame, je trouve. C'est le contexte actuel de ce que vit cette radio, par exemple, et est-ce qu'elle reçoit justement cette empreinte de société sur la radio, on peut l'apercevoir sur le film.
Alors, le film, il a été tourné en 2018, si je ne me trompe pas, au moment des dernières élections. En fait, c'était la fin du dernier mandat de Kabila. Et les élections avaient été reportées déjà plusieurs fois pour plein de raisons plus ou moins crédibles. Et donc c'est sûr qu'il y a un contexte de tension politique, mais le film reste très doux dans son approche, parce que Philippe Heim est quelqu'un qui est comme ça aussi, qui est vraiment dans la fluidité avec les gens. Et en fait, il y a beaucoup de petites radios au Congo qui essaiment sur tout le territoire, qui sont des radios communautaires, rurales. Alors, il y en a qui sont liées à des groupes religieux, il y en a qui sont reliées à des groupes politiques, donc celles-là, elles sont couvertes de tout, voilà. Et ce que dit un des personnages du film, c'est qu'eux, ils sont orphelins, c'est-à-dire c'est une radio totalement indépendante, c'est la radio des paysans. Donc personne n'est là pour les protéger des demandes de bakchiches et des demandes et des pressions, etc. Donc pour eux, c'est quand même compliqué, on leur réclame sans arrêt de nouvelles taxes, de nouveaux droits d'auteur, etc. Mais il y a un système de solidarité qui fonctionne très bien avec des clubs d'écoute paysans qui se cotisent pour que ça continue à tourner. Et en fait, Philippe les a rencontrés parce qu'il travaillait à l'époque, il suivait une mission de Radio France Internationale qui amenait des moteurs diesel dans les campagnes pour faire tourner ces radios justement, comme pour faire tourner les générateurs électriques. Et donc ils ont amené un moteur diesel dans ce village d'Idiofa où le film est tourné. Et Philippe est revenu 4 ou 5 ans après tourner. Et donc c'est un moteur qu'ils arrivent à faire tourner avec l'huile de palme que produisent les paysans. Donc voilà, ils arrivent à être complètement autonomes et complètement indépendants, plus qu'une radio publique officielle. C'est une radio publique au sens d'une radio partagée, d'une radio du commun, et pas au sens de public qu'on entend nous en France, qui finalement dépend d'un État et du coup, plus ou moins libre. Dans le film, un des animateurs insiste bien sur l'idée qu'ils ont une énorme responsabilité avec leur voix, parce que bon, voilà, on est dans un univers où il y a quand même très peu d'écran, très peu d'électricité. Donc la voix est ce qui pénètre le plus dans les villages. Alors c'est un transistor partagé. Il y a une image magnifique où on voit le transistor qui est posé dans l'arbre à parler, en fait. Ils sont tous autour et ils écoutent cette voix. Et en fait, c'est un pays voisin du Rwanda où un génocide a débuté avec des mots lancés à la radio Mille Collines. Donc, il insiste sur leur responsabilité, sur le fait qu'un journaliste doit mesurer ses propos, réfléchir à leur implication. Enfin, c'est très intéressant. En quelques mots, il dit tout le travail des journalistes. Mais oui, il faut beaucoup résister aux pressions. C'est sûr qu'ils en ont énormément. Alors, moins dans ces petits lieu reculé, évidemment, que dans les grandes villes. Je pense que l'ambiance à Kinshasa ne doit pas être la même. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont à 2 jours de route de Kinshasa. Finalement, ça crée une liberté de fait. Voilà.
Oui, parce que c'est une radio communautaire rurale. Alors, je crois qu'il en existe plusieurs au Congo. Et j'ai dû en voir une autre également qui fonctionne différemment. Et là où aussi, il y avait une implantation officielle très forte. Et je me disais, ça ne doit pas être agréable de travailler dans ces conditions.
Oui, voilà, c'est ça. La radio Nsemo est une radio totalement autonome, c'est-à-dire qu'elle est complètement indépendante d'un parti politique ou d'un groupe religieux, parce qu'il y a beaucoup de sectes et de groupes religieux différents qui essaiment en Afrique centrale et de l'Ouest et qui dictent un petit peu la parole des journalistes. Là, c'est vraiment pas le cas du tout. Et elles ont aussi un rôle pédagogique, on va dire. Là, dans le film, Philippe a axé sur la question politique puisque c'était le moment des élections. Mais donc, on explique aux gens qu'ils sont pas obligés de voter pour quelqu'un parce que c'est leur voisin, qu'il faut voter pour des idées. Voilà, il y a des femmes qui prennent la parole en disant, en fait, on a aussi le droit de voter pour des femmes. Les femmes aussi peuvent être représentées. Donc, on suit un petit peu une candidate, justement. Et il y a aussi, bon là c'est moins montré dans le film, mais on en a parlé hier soir pendant le débat, il y a aussi des missions de service public, parfois sur la santé, sur l'éducation, enfin voilà, ils transmettent des messages, ils se déplacent dans les petits villages pour parler du travail des paysans, et ils se donnent des conseils mutuellement via la radio. Quand les gens perdent leur document d'identité, ils vont pas à la gendarmerie pour réclamer les documents d'identité, ils vont à la radio. Parce qu'ils disent, voilà, j'ai perdu mes documents, si quelqu'un veut me les ramener, il y a une récompense à la radio. Voilà, on voit sur la table de mixage, ou je sais pas, il y a une pile de documents, de cartes d'électeurs. En plus, spécifiquement de cartes d'électeurs. J'ai trouvé ça fort.
Le point commun entre cette radio Congo, sur ce film projeté hier, et ici avec la chocolaterie Yéré, qui est plus Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un lien?
Bon, ben, y a un petit lien géographique, on va dire vague, comme on pourrait parler de l'Europe. Mais y a un lien dans... dans un questionnement sur les outils et leurs usages, en fait. On parlait par exemple de l'huile de palme, qui est utilisée chez eux, c'est une culture vivrière, c'est pas les grandes plantations asiatiques qui génèrent une déforestation, etc. C'est une culture ancestrale, on masse les bébés avec, on la mange, voilà, elle est bonne pour plein de choses, elle est cultivée parmi d'autres cultures, le manioc, le maïs, etc. Et là, elle sert avec ce vieux moteur pour amener la radio. Le cacao, c'est pareil. S'il est pratiqué de façon industrielle, c'est un désastre écologique. Si on le fait dans le respect des terres et des paysans, c'est une culture comme une autre. C'est vivrier aussi. C'est un savoir-faire ancestral. C'est une plante endémique. Donc, il n'y a pas de souci si l'usage est en effet correctement. Et puis, dans les deux cas, il y a une volonté de retour au monde paysan de ce qu'il produit. C'est-à-dire que Thomas et Amona, quand ils ont commencé à produire du chocolat en Côte d'Ivoire, ils se sont rendus compte que les enfants des paysans, des cacaoculteurs, n'avaient pas la moindre idée du goût du cacao, parce que les fèves sont immédiatement captées par les grands groupes et sorties du pays. Donc ils ont transformé sur place, ils ont fait goûter aux familles, etc. Et la radio NCMO, elle est produite par les paysans, pour les paysans, pour soutenir leur vie quotidienne et leur vie démocratique. Donc finalement, on est sur un outil aussi, c'est pareil. Même la radio en elle-même, sans parler d'huile de palme, la radio en elle-même peut produire un génocide au Rwanda et peut produire du lien social avec la radio NCMO. Donc,
ouais. Il y a ces présentations de chocolat aéré issues du Côte d'Ivoire. Tu peux peut-être nous parler du fondateur. Tu parlais de ce père qui subvenait à 40 enfants de son activité. Et donc, c'est une de ses filles qui est actuellement créatrice de ce lieu.
Alors oui, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, donc Amona, elle est franco-ivoirienne, elle a grandi en Côte d'Ivoire, avec des parents libraires d'ailleurs, donc c'est rigolo finalement de faire une librairie éphémère dans sa chocolaterie, parce que la boucle est bouclée. Mais le grand-père d'Amona était cacao-culteur, oui. Et la légende familiale dit qu'effectivement, il arrivait à faire vivre toute sa famille, donc 40 enfants comme peuvent être les familles là-bas, donc avec des mamans qui contribuent évidemment, hein, qui bossent pas qu'un peu. Mais voilà, la famille arrivait à vivre avec la cacao-culture, il envoyait des enfants à l'université, etc. Thomas et Amona ont fait des études en France, d'anthropologie, ont travaillé beaucoup en Amérique latine, en Bolivie, au Mexique, où ils ont découvert le travail du chocolat. Et quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire en tant qu'humanitaires, là, ils se sont rendus compte que les cacaoculteurs étaient quasiment tous en dessous du seuil de pauvreté. Donc en deux générations, on avait complètement basculé économiquement, avec l'implantation d'un ultralibéralisme et d'une surproduction, une surconsommation du cacao.
Qui perdure toujours aujourd'hui? Ou alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs du pays, et de peut-être ramener aussi à une juste contribution des productions artisanales ou familiales?
Non, alors ils en parleraient mieux que moi. Ce qui se passe, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pour ce que j'en connais, la fève de Côte d'Ivoire n'est pas la plus réputée non plus. Donc c'est pas ceux qui sont le plus protégés par les réseaux éthiques, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, je me suis perdue en chemin.
Justement, je reviens sur là-dessus. Il y a quelques années, j'avais reçu un jeune homme qui se formait dans un métier de boulangerie, je crois, qui avait été pris en charge étant mineur à ce moment-là, et donc a suivi une formation professionnelle. Et il disait qu'il a quitté ce pays où il vivait parce qu'il y avait une monoculture du cacao au détriment de toute autre culture, et que les gens étaient complètement à la merci de cette industrie. Donc il n'y avait plus d'avenir pour lui. Et donc est-ce que cela continue encore, et ce qui peut aussi amener des populations à partir de chez elles?
Oui, bien sûr, il y a un vrai système d'exploitation pur et simple. Donc ce que Thomas et Amona essayent de proposer, c'est de faire autrement, donc de travailler en direct avec certains paysans, de les convertir à l'agriculture biologique, de leur faire goûter leurs propres produits, d'appliquer des tarifs qui font qu'ils peuvent vivre décemment. Et puis les cacaoyers, ils sont là, donc on peut les utiliser intelligemment. Voilà. Donc c'est un petit peu l'ensemble de leur démarche. Après, c'est compliqué parce que tout est administrativement fait pour les grands groupes en Côte d'Ivoire. Donc au début, ils transformaient même le chocolat en Côte d'Ivoire, vraiment pour le faire goûter là-bas. Là, cette année, ça n'a plus été possible pour des raisons administratives. Parce que tout est calibré pour les grands groupes et qu'eux, ils n'ont pas forcément les centaines de milliers d'euros de caution pour faire sortir telle marchandise, enfin voilà, c'est très compliqué de revendiquer, de faire encore de l'artisanal. Et finalement, dans le livre, on a le même problème, c'est que si on veut un distributeur ou un diffuseur, on est quasiment obligé d'en prendre, parce que je dis quasiment, il y a des petites exceptions, mais obligé de prendre des distributeurs, des diffuseurs qui dépendent de deux milliardaires, qui décident finalement de qui est visible et de qui ne l'est pas. Et on se retrouve, nous, à payer une part qui ne nous est jamais rendue. Enfin voilà, on est essorés par la machine qui demande de surproduire ou de mourir finalement.
Il y a dans ce lieu des expositions de peinture de qui déjà?
Alors Michel Lepère qui a fait des grandes huiles sur toile, donc on a Michel Lepère est artiste peintre et graveur, on a une grande huile sur toile qui représente un cayuco, donc une embarcation qui a traversé la Méditerranée avec plein d'humains à son bord qui nous regardent. Et à côté, c'est un tchoukoudou, l'autre grand tableau. Donc le tchoukoudou, c'est un moyen de locomotion assez courant en République démocratique du Congo, justement. C'est une espèce de grande trottinette sur laquelle ils transportent tous leurs biens. Et donc, y compris en cas de conflit. Donc là, on voit un père qui transporte son enfant et un énorme baluchon sur son tchoukoudou. Voilà. Après, il y a des travaux préparatoires parce que Michel Lepère, elle travaille très longuement ses toiles pour arriver à représenter les sujets, les humains de la façon la plus juste possible. Donc, on a des pastels, des gravures qui sont des travaux préparatoires à ces toiles-là ou à d'autres. Voilà. Après, c'est pareil sur l'Argentine parce que donc aux éditions des Colamboles, on a deux livres argentins maintenant, un essai et un livre d'art. Donc le livre d'art, c'est des œuvres de Michel Lepère encore. Et puis on a des collages et des dessins de terrain, comme on dit en anthropologie, que j'ai fait moi en tant qu'anthropologue là-bas en Argentine. Voilà, on a les photos de Denis Moplo qui nous raccordent au Divois.
Je rappelle cette émission qu'on avait fait au printemps, justement, qui présentait quatre éditions hein, de la maison des éditions des Colamboles, dont Denis et vous, pour ces femmes qui pleurent leurs enfants en Argentine, et Denis pour ces paysages du Divois. Des photos à découvrir sur sur cette salle hein. Ces ouvrages présentés avec aussi des présentations de dépliage, comment on appelle ça ces livres qu'on déplie?
Alors là on a des Leporello, on dit, donc les livres accordéon du nom du serviteur de Don Juan dans l'opéra qui déroule la liste des conquêtes de son maître sur scène et ça fait un immense accordéon. Donc on a gardé le nom Leporello pour l'objet. On a un livre à explosion ou un livre à jaillissement, un livre carré quand on l'ouvre, toutes les pages jaillissent en même temps en fait. On a des livres boîtes, on expérimente plein de choses. La maison d'édition de l'atelier du Hanneton a des coffrets, elle a des enveloppes imprimées aussi. Elle a un petit livre qui s'appelle « Et », où la couverture est faite avec du poireau séché. Donc on expérimente plein de choses aussi, on s'autorise. C'est là l'avantage de ne pas être dans un modèle industriel, c'est qu'on peut aussi inventer, innover, faire un pas de côté, chercher, tâtonner et en chemin découvrir des choses intéressantes.
Les éditions Colamboles, c'est la conception d'un livre pour son aspect final, mais est-ce que vous avez le matériel ou vous passez par un imprimeur pour peut-être avoir ce bébé en final?
Alors moi, je fais plus un travail d'édition, on va dire classique, même si artisanal, c'est-à-dire que j'accompagne l'écriture des auteurs, je les aide à corriger leur récit, et après je fais la mise en page, le graphisme, et j'envoie un imprimeur. Donc on essaye de rester avec un impact minimum. Donc quand c'est des livres vraiment, des livres d'art artisanaux, ils sont imprimés par Heraldi, Adi, ils sont reliés à la main, Adi, donc ils font 2 km de voyage, en gros, pour la fabrication, c'est relativement modéré. Et puis sinon, on reste en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'imprimerie CEPEC, qui est dans l'Ain. Et puis je sais que The Uchikuchi travaille pas mal avec cette imprimerie aussi, c'est l'avantage, on essaie de surtout pas imprimer en Chine, au Portugal et ailleurs comme le font les grands groupes. Et puis après, Colophon et l'atelier du Hanneton sont encore un cran au-dessus dans l'artisanat, c'est-à-dire qu'eux, ils sont ouvriers typographes à la base, donc ils ont tout le matériel avec encore des lettres en plomb du 19e siècle.
Ou en bois.
Et du coup, c'est des livres qui sont imprimés lettre par lettre. Les lettres sont placées sur un chemin métallique et passées dans le rouleau de l'impression. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment très, très artisanal. Et soit c'est relié par un relieur local, soit c'est relié à la main par eux-mêmes. Il faut visiter donc, l'atelier du Hanneton à Charpais, près de Valence, et Colophon à Grignan, sous le château de la comtesse de Sévigné, où il a carrément un musée de la typographie. On voit différentes machines, différents types de lettres, de chemins. Enfin, c'est formidable comme travail. Et c'est assez rare encore en France, en fait. Donc ils ont des stagiaires qui viennent d'écoles d'art, qui viennent se former chez eux, parce que c'est pas commun. C'est un vrai savoir-faire à maintenir et qui leur garantit une indépendance totale, en fait. Hein. C'est un peu leur moteur à huile de palme à eux, c'est leur machine de typographie. Ils sont encore moins indépendants que moi de l'industrie. On est tous un peu dépendants du coût du papier, ça, pour l'instant. Moi, j'en fabrique, je fais du papier recyclé aussi pour certaines couvertures avec les brouillons de la maison d'édition que je retransforme en pâte à papier et que je... Voilà, mais bon, ça, c'est vraiment ultra artisanal. Ça nous prend un temps. Enfin, voilà, là, on n'est plus sur du travail rentable. On est sur de la passion. Enfin, du début à la fin, de toute façon.
Et en feuille de poireau, alors, vous disiez.
Oui, voilà, c'est le petit livre « Et » qui est là-bas. Donc, il y a un papier classique, mais il y a des feuilles de poireau collées dessus. Là, je voulais essayer, justement, sur le temps de notre résidence, on va dire, à Yéré, de faire du papier avec des inclusions de cacao dedans. On peut essayer de recycler les fèves brûlées dans le papier, par exemple.
Donc, un papier qu'on peut manger, qu'on peut dévorer.
Ah, on pourrait carrément le faire entièrement en cacao pour qu'il soit comestible. Mais là, il faut que je révise la recette, quand même. Non, je pensais juste un papier classique. Bon, après, ça se mange, hein, c'est de la fibre de bois. C'est pas hyper digeste, mais ça ne nous empoisonnera pas non plus.
Alors, tu proposes toi-même donc des collages issus de ton travail d'anthropologue, comme tu disais. C'est l'anthropologie qui vous a permis de vous rencontrer tous là autour de ce projet de ce lieu.
Oui, alors avec Thomas Yamona, les chocolatiers, clairement, c'est l'anthropologie qui nous a rapprochés au début parce qu'en fait, tout simplement, on avait des enfants dans la même école maternelle à Châtillon et. Et on m'a dit, mais les gens là-bas, ils sont anthropologues, donc j'avoue que je leur ai sauté dessus. Ça a été le premier lien. Mais oui, bien sûr, il y a quelque chose de commun dans cette démarche de l'anthropologie. C'est l'étude du commun de l'humanité dans la diversité des cultures. Et chaque fois, on cherche ce qu'il y a de commun. Donc forcément, avec cette philosophie-là de départ, on se retrouve sur bien des points, oui, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai une double formation. J'ai une formation artistique aussi. Et chez moi, ça fonctionne vraiment comme un moteur à deux temps. Voilà. Donc, je me suis dit que si ça fonctionnait comme ça chez moi, ça pouvait fonctionner comme ça chez d'autres aussi, probablement. Et donc, voilà, ma maison d'édition propose vraiment un dialogue à chaque fois entre l'art visuel et l'écrit. Et puis, ça nous permet de faire des expos comme ça qui sont multiformes, transdisciplinaires. On l'avait expérimenté déjà à l'Opéra de Lyon et dans une abbaye à Neumünster au Luxembourg, avec une expo sur... Les maires de la place de Mai aussi, où on avait du film documentaire, des expos de gravure et de peinture et des grands textes d'anthropologie. Et on m'avait dit, Alice, c'est pas la peine que tu écrives des textes. Les gens dans les expos, ils ne lisent pas. Ils lisent deux lignes maximum. Et j'ai pris des grandes banderoles de tissu comme elles sont utilisées là-bas dans les manifestations, je sais pas, 4 mètres de haut, et j'ai écrit à la main mes textes anthropologiques dessus. On a des gens qui sont restés des heures pour le lire. Des gens qui venaient pour voir le film ou qui venaient pour voir les peintures et qui finalement se retrouvaient à lire de l'anthropologie. Et inversement, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui sont venus juste pour l'anthropologie et qui finalement ont été touchés par une œuvre. Et voilà, j'aimerais bien arriver à stimuler le sens par les sens, l'intellect par les émotions. Enfin voilà, essayer d'être dans un enrichissement mutuel de toutes ces disciplines.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Mallory, animatrice aussi à RDIWA, j'ai suivi l'interview depuis le début. Et tout à l'heure, tu disais que ce travail, c'était aussi pour retrouver le commun qu'il peut avoir entre les différents artistes que vous êtes ici sur le territoire français, mais aussi ce qui se passe ailleurs. Et on est passé très vite à la suite, mais quel a été du coup le résultat? Qu'est-ce qui fait commun vraiment selon vous
Alors sur chaque Philippe Heim par exemple, pour son film qu'il a présenté hier soir, Philippe Heim, il est fils de paysan. Son premier film, c'était sur la transmission des terres de son père à son frère. Et finalement, là, il va au Congo pour une autre mission de boulot et il se retrouve fasciné par une radio communautaire rurale et par les paysans et leur rapport à leur radio. Et finalement, ça parle d'alter ego qui certes sont dans une autre culture, mais partagent quelque chose d'un rapport à la terre avec lui et puis d'un rapport à l'art ou à l'expression de soi, on va dire, la radio ou le cinéma. Moi, en Argentine, j'ai travaillé avec des mères qui ont perdu leurs enfants, à qui il est arrivé la pire des choses au monde, qu'on leur arrache leurs enfants sans leur dire ce qu'on en faisait, qu'ils ont été torturés, assassinés, et on a fait disparaître leur corps. C'est flagrant, c'est hyper, ça nous prend aux tripes. Toutes les mères du monde, tous les parents du monde le vivent dans leur chair quand ils l'entendent raconter, ou presque. Donc on est, c'est des disciplines qui travaillent aussi à partir de l'empathie pour transmettre des histoires. Moi, je reviens en Europe après pour raconter l'histoire de ces mères. Et là, en l'occurrence, en plus, on a tous une visée assez politique qui est que les choses ne se reproduisent pas. Je parle d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, en espérant évidemment que ça puisse servir de leçon ici et ailleurs. Philippe, il vient parler de l'intérêt d'une radio au Congo, mais c'est l'intérêt de la radio à travers le monde qui est révélé à travers cet exemple précis. Michel, elle va peindre le regard d'un père et de son fils sur un tchoukoudou congolais, mais c'est une relation père-fils qui peut se retrouver partout dans le monde.
C'est une personne qui va au contact aussi des sujets qu'elle traite dans ses peintures.
Non, alors Michel, elle travaille à partir des photos de presse, toujours, mais qu'elle explore très très longtemps, qu'elle décortique, qu'elle déchiquette, qu'elle recompose, et elle se renseigne énormément sur la culture, mais elle n'a jamais voyagé dans ces pays-là. Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a rencontré en France, par exemple, elle a fait des tableaux afghans, elle a rencontré en France des Afghans qui lui sont tombés dans les bras quand ils ont vu qu'ils avaient été représentés avec dignité par quelqu'un d'ailleurs qui simplement avait été touché par leur histoire. Et pour les gens de partout dans le monde, qui sont particulièrement pour ceux qui souffrent, mais de savoir que nos histoires touchent d'autres gens, sont entendues, vues, écoutées, respectées, prises en considération par d'autres, c'est fondamental.
Donc le commun, au final, c'est le partage et l'émotion, peut-être, en fait. Surtout l'émotion qu'on peut tous ressentir par rapport à tant de sujets différents et le fait de partager toutes ces histoires qui nous viennent d'ici et d'ailleurs. Quoi.
Oui, toutes ces histoires, elles nous renvoient chaque fois notre commune humanité. Oui, ce monsieur-là, c'est un homme, il est noir et il vit très loin de chez moi, mais en fait, on est traversé par les mêmes émotions. Encore plus dans la mondialisation, on est tous soumis aux mêmes enjeux là, de face au capitalisme. On est tous aussi petits les uns que les autres.
Voilà. Alors, il y a dans cette salle ses œuvres exposées. Il y a aussi disposé des grands sacs de toile avec de la marchandise dedans.
Ce sont des fèves de cacao 100% biologiques, avec tous les labels marqués dessus encore. parce que cette année, Thomas et Amona ont plutôt fait livrer le cacao. Ils le transforment ici. C'est beaucoup plus commode aussi, artisanalement parlant. Enfin, voilà. En termes de stockage, dans un pays où il fait très chaud, c'est pas facile de stocker le chocolat, même s'ils continuent à pouvoir le faire goûter là-bas. Donc tout est fait ici à Recoubo. En fait, les sacs arrivent et les fèves sont triées, sont torréfiées ici. La fève est broyée. En fait, Thomas et Amona sont parmi les seuls chocolatiers en France. Enfin, ils sont très rares à travailler depuis la fève jusqu'à la tablette.
Oui, parce que j'ai interviewé des personnes qui produisent des chocolats dans le Diois et qui se fournissent directement chez un fournisseur fabricant de chocolats prêts à l'emploi.
Voilà.
Mais ici, vous prenez l'envie de vraiment travailler le matériau brut.
Le matériau brut, d'une part, c'est le plus intéressant à travailler éthiquement et pour le plaisir aussi des yeux et des matières. Mais c'est aussi la meilleure manière de maîtriser toute la chaîne. C'est-à-dire que là, ils sont en contact direct avec les paysans qui les ont produits. Ils peuvent les choisir sur place. Et puis, du coup, ils maîtrisent totalement la chaîne dans un respect du consommateur aussi, parce que l'industrie du cacao a pris l'habitude de séparer dès le départ le gras du maigre du cacao parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable pour eux. Donc le beurre de cacao part plutôt dans les cosmétiques et avec le maigre du cacao, on ajoute des matières grasses beaucoup moins chères, lécithine de soja ou huile de palme par exemple, donc des grandes industries ravageuses de la biodiversité. Or, la fève de cacao, là, Thomas Yamona le présente parfois dans des ateliers de pédagogiques. On peut la moudre de plus en plus finement, et là, elle exude son gras, et simplement de le moudre comme ça, de plus en plus finement, le gras et le maigre vont se mélanger, et ça produit du chocolat. Ils ont du chocolat 100% cacao, c'est juste la fève broyée, malaxée, mais il n'y a aucun adjuvant. Et après, les chocolats qui sont moins denses en cacao, le seul adjuvant, c'est du sucre de canne bio.
D'ailleurs, est-ce que le chocolat nécessite un conservateur malgré tout ? Il se suffit à lui-même ?
Oui, il se suffit à lui-même. Il y a juste une histoire de température quoi, pour la conservation. Il ne faut pas monter trop en degrés. Plus le chocolat est noir, plus il tient la température. Mais quand même, il ne faut pas monter au-dessus de 32 degrés. On a un chocolat qui devient blanc et cassant.
Il y a ce laboratoire, hein, d'ailleurs, à côté, qui occupe à peu près la moitié de l'espace de la chocolaterie. Est-ce qu'il existe cette broyeuse de chocolat que l'on voit sur la mariée mise à nu par les célibataires même de Marcel Duchamp ?
Je ne sais pas. Il faut demander au chocolatier. Je ne sais pas si c'est la machine de Duchamp qu'ils ont, mais j'ai un doute quand même. Mais oui, c'est des outils très très simples. Hein. Et vous avez vu, il y a un four qui fait quoi 50 cm de haut, 50 cm de large à quelques étages et on torréfie les fèves là. Il y a un petit robinet de cacao. J'ai des enfants qui sont venus en atelier avec la maison d'édition. Ils sont entrés, il y avait un robinet qui coulait du chocolat. Ils sont restés en extase pendant 10 minutes devant le robinet. Ils avaient envie d'ouvrir tous les robinets pour voir si tous les robinets laissaient couler du chocolat.
Mais là pour l'inauguration et j'avoue que ça m'a rendu assez dingue aussi de voir le chocolat couler comme ça.
On a tous un vieux fantasme de Willy Wonka qui remonte dans ces coups-là. Mais Roald Dahl a écrit un livre qui pourtant est aussi hyper colonial. Personne ne s'est posé la question des conditions de vie et de travail des Oompa Loompa. Mais Thomas Yamona se pose la question.
Et il y a cette odeur aussi quand le chocolat se fabrique. On s'en nourrit même presque.
Ah oui, on n'a plus faim quand on sort d'ici après. Juste assez pour acheter un peu de chocolat. Et bien en fait, les éditeurs qui ont accepté de poser leurs livres et les artistes qui ont accepté de poser leurs œuvres ici étaient plutôt contents à l'idée que les invendus rentreraient chez eux parfumés au chocolat. Ça ne leur déplaisait pas.
Il y a une visibilité en dehors de ces tables, de ces présentations, de travaux, hein, que ce soit la maison Colophon. Bon, toi, évidemment, tu es présente, mais il y a une présence aussi pour des rendez-vous de création organisés autour de l'édition.
Là, il y avait que moi qui était présente sur qui serait présente sur cet été-ci parce que eux, ils ont leurs lieux aussi qui sont aussi très demandeurs. Donc voilà, l'idée c'est de s'entraider parce qu'on a tous beaucoup de mal à joindre les deux bouts. En fait, le bénéfice moyen de l'édition indépendante, c'est moins 1%. Donc en moyenne, on est tous déficitaires. Donc voilà, s'entraider, que leur livre puisse être dans plusieurs lieux et pas que dans des librairies qui nous prendraient un petit peu, mais où on serait noyé dans la masse. Et quand les libraires nous prennent, ils nous prennent qu'un petit peu. En fait, ils prennent les livres les plus manufacturés. Dès que c'est un objet atypique, ils n'ont pas les rayonnages pour, ils peuvent pas gérer le public qui les manipule. Enfin voilà, on est hors format. On est à mi-chemin entre la galerie d'art et la librairie. Donc là, c'est moi qui suis présente pour l'édition. Et puis Thomas et Amona qui sont là aussi. On est à tour de rôle, donc les chocolatiers ou l'éditrice. Mais on connaît quand même relativement bien tout le travail des uns et des autres.
Je pense qu'il existe quand même un réseau en France de ces éditions indépendantes. Est-ce que parfois vous opérez des contacts, des rapprochements et peut-être envisager des perspectives d'édition face à cette industrie qui absorbe tout ?
Oui, alors il y a plusieurs associations hein, d'édition indépendante. Il y a des gros salons aussi de l'édition indépendante à Paris, à Lyon. Et puis il y a plein de petits salons à travers la France qui généralement valorisent les éditeurs locaux. En fait, il y a énormément d'éditeurs en France. On est dans le questionnement là avec les autres éditeurs. Que faire pour s'entraider sans pour autant rentrer dans un modèle où on va fonder une société qui sera appelée à grossir systématiquement pour survivre et où finalement on va imiter le modèle dominant. parce que c'est le piège de beaucoup d'éditeurs qui se sont regroupés en se disant eh ben, ensemble on sera plus fort, et puis en fait ensemble ils se sont fait manger par Bolloré. Donc il faut quand même qu'on arrive à coopérer tout en gardant la multiplicité, la diversité. Donc encore une fois, il faut qu'on trouve le commun dans la diversité et qu'on en fasse une force.
Il y a aussi la production dite de luxe qui permet justement de maintenir aussi des savoir-faire de création artisanale. Ou est-ce que dans l'édition, il existe aussi un peu ce secteur, ou est-ce qu'il est mis à mal? Mais est-ce qu'il existe une persistance de cet aspect luxueux ou de l'ouvrage d'art qui permette justement d'avoir une activité pérenne? Et à contre-exemple, il y avait la galerie Mecht à Paris, je crois, qui a fermé depuis, mais qui était très renommée pendant des décennies.
Oui, Michel a exposé là-bas à une époque. Oui, il existe toujours... du livre d'art, il y a des salons du livre d'art. Après, les gens n'en vivent pas pour autant. Un artiste qui vit de son art, c'est compliqué. Quand on n'est pas dans le spectacle, on n'est pas protégé par le statut d'intermittent, qui a ses défauts, mais qui est quand même assez unique en Europe et dans le monde. Et les autres artistes n'ont pas ça. Les artistes auteurs, les peintres, les écrivains sont très très peu protégés. Donc oui, il existe toujours du livre d'art. Alors dès qu'on a des originaux, on est à 100-200 euros le livre. Nous, on a fait le choix d'être plutôt sur de la reproduction. Les originaux restent vendables hors format livre. Je trouve personnellement que souvent, ils n'ont pas besoin du format livre pour exister, les originaux avec lesquels on travaille. Et que la reproduction, c'est un espèce d'entre-deux où les gens vont quand même pouvoir y avoir accès plus facilement. Mais on fait une reproduction de qualité. Voilà, avec par exemple pour Michel, le livre Éclat de voix, qui est un livre à jaillissement. C'est quand même un livre à 50 euros parce qu'il y a beaucoup de travail de reliure, parce que c'est de la reproduction de qualité, mais ça reste 50 euros et c'est pas 200, quoi. Voilà. Pareil pour le Leporello de Denis Moplot, ou celui qu'on a fait à partir du livre de Claire Bonnel qui s'appelle L'élégance au carré, où les trois photographes à être intervenus sur les textes de Claire. Là, on est sur des livres à 50-55 euros, série limitée, numérotée, signée, mais c'est de la reproduction. Voilà. Et ça nous permet d'avoir un entre-deux, parce que la démocratisation de la culture, c'est important quand même aussi. Si on parle toujours à la même classe sociale, on va pas avancer beaucoup.
Ceci dit, les éditions Colombol, on peut en trouver quelques ouvrages à la librairie Mosaïque, a dit. Est-ce qu'il y a d'autres lieux de vente, plus ou moins loin d'ici?
Oui, alors pour l'instant, moi je ne suis pas très bonne en diffusion, parce que malheureusement, je n'arrive pas à me démultiplier encore, je n'ai pas trouvé la solution. Mais oui, on a les livres les plus classiques, les plus manufacturés, donc les romans, les essais, L'élégance du feu, À tâtons ou Face à l'abîme, par exemple, sont à la librairie Mosaïque, à la librairie La Balançoire, à Cray, à la librairie de Nyons, dans notre secteur géographique, quoi. Mais c'est compliqué pour nous de gérer, parce que c'est souvent des systèmes de dépôt, en fait. Donc il faut qu'on fasse un suivi, qu'on aille les déposer, qu'on revienne les chercher, que si on a 25 librairies, c'est 25 allers-retours à chaque fois qu'il faut ramener du stock. Donc c'est un gros enjeu, celui de la distribution.
C'est très chronophage, le réseau de distribution, la distribution de ces ouvrages. Donc
oui, voilà, c'est très chronophage, c'est assez ingrat, parce qu'en fait, quand on arrive dans les librairies en disant « bonjour, je suis éditeur », parfois on est reçu comme des marchands de tapis, et je peux comprendre, ils sont sursollicités, ils ont un nombre de titres énorme, et puis ben voilà, dès qu'on est dans une dimension plus artisanale, il y a aussi à boire et à manger, c'est sûr, il y a des gens qui s'auto-proclament aussi, éditeurs, donc il faut un certain bagou pour y aller, d'une part, d'autre part c'est chronophage, et puis après il y a les petits éditeurs indépendants qui décident quand même de prendre un distributeur et un diffuseur, mais là on a 30-35% de la marge qui est engloutie, et c'est difficile d'en vivre.
Chocolat Hieré, c'est un espace donc de production de chocolat avec des dérivés soit en plaque ou en poudre ou en confiserie peut-être. Et qu'est-ce qu'il y a en plus tout au long de l'année sur ce lieu?
Alors c'est assez nouveau en fait, Thomas et Amona ont fini les travaux au cours de l'hiver là, donc c'est pour eux une expérimentation aussi. Ils ont la partie chocolaterie atelier qui est dans le fond de la pièce, et un grand espace devant qu'ils cherchaient à savoir comment utiliser. Donc on a fait en hiver un petit week-end sur la thématique décoloniale avec l'association à la lisière aussi, qui s'est très bien passé, où il y a eu beaucoup de monde, c'était très vivant. Et voilà, ils sont dans l'idée sans doute de faire des événements ponctuels pour faire vivre leur chocolaterie. Sinon, ils travaillent ici à l'année et il y a un petit point de vente ouvert quand ils y travaillent. Mais ça reste très informel pour l'instant et c'est un projet à construire.
À l'origine, ces bâtiments tout en enfilade, sais-tu ce que c'était ?
Alors, c'était lié au travail de la soie, au travail des cocons de soie. Alors, c'était pas une magnanerie, c'était... une autre étape.
De tissage,
non ? Oui, sans doute, je ne sais pas exactement. Et puis après, ça a été racheté par la Croix-Rouge, et c'était des grands ateliers. Voilà. Et puis la Croix-Rouge est restée sur Kubo, comme vous le savez, avec le château et les attes. Mais la partie ici a été revendue, c'était un gîte pendant longtemps. Et puis là, ça a été racheté par cette famille, je crois, avec différents projets. Donc il y a la Maison Oiseau à côté, qui est un magasin... d'art et d'artisans. Il y a Alice et Mathieu à côté qui ont un projet lié à la danse, plutôt une salle de répétition de danse et de stage. Donc la chocolaterie Héré qui propose des expositions, des rencontres, qui va se placer peut-être sur quelque chose d'un peu plus intellectuel et politique. Mais voilà, les lieux se déploient pour l'instant. Ça peut devenir un chouette petit pôle culturel d'Iwa.
Et pour toi, les éditions des Colomboles, il y a un lieu, une base, une situation quelque part ?
Non, pour l'instant, je vis dans le bois comme les Colomboles, petits insectes invisibles mais indispensables à l'équilibre. Voilà, non, c'est la dèche. Mais voilà, c'est super que Thomas Yamona puisse nous accueillir d'ailleurs, parce que pour nous, c'est d'abord une vitrine, une visibilité. Et puis, si on fait des livres, c'est pour pouvoir échanger. Donc c'est important d'avoir un lieu. On cherche une solution de lieu, hein, tout à fait. J'aimerais bien pouvoir avoir un lieu qui soit un lieu convivial aussi, où les gens puissent venir.
En tout cas, le cadre est agréable, hein, avec ce paysage autour. Et les ouvertures de ce lieu pour cette exposition, quelles sont-ils ?
Alors on a commencé le 3 juillet, c'est jusqu'au 16 août seulement. C'est les mercredis, jeudis et vendredis. De 15h à 19h pour l'instant. Voilà, une expérience à poursuivre si tout se passe bien, hein, sur d'autres temps. On a parlé de la fête des morts, puisqu'on a tous été beaucoup en Amérique latine. On a parlé de cette période-là, on a parlé de Noël. Enfin voilà, on va essayer de si on peut, développer des choses ensemble, continuer à faire des choses ponctuellement ici. Et puis je pense que Thomas et Yamona seront ouverts à d'autres propositions aussi. Hein.
Alice, les éditions des Colomboles a-t-elle un site ?
Oui, on a un site, édition des Colomboles, avec un petit tiret classique entre chaque mot, .fr. Site fait par Denis Mauplot, d'ailleurs.
Tout comme la maison Colophon et puis la chocolaterie Héré. Je mettrai les liens sur la page de l'émission, sur le site de la radio. En tout cas, merci beaucoup, Alice, de ce temps que tu nous as consacré pour cette émission, et je te souhaite une bonne soirée.
Merci à vous deux.
Au revoir.
Au revoir.